bien, bonsoir, donc merci pour l'invitation. Je suis content d'être avec vous pour vous parler de mon thème de recherche principal, qui est celui des origines du langage. Donc comment, dans le passé, notre espèce et celles qui nous ont précédés ont développé ce qu'on retrouve aujourd'hui chez tous les êtres humains, donc la faculté de langage qu'on retrouve dans les quelques 6000 langues qui sont parlées sur la planète aujourd'hui. C'est un domaine qui est très vaste. C'est ce que je vais essayer de vous montrer ce soir, même en me centrant un petit peu sur un aspect plus particulier qui est celui des liens entre le langage et la pensée symbolique, le fait d'utiliser des symboles. Donc c'est un domaine très très vaste, avec différentes sciences, de l'informatique à la psychologie, en passant par l'archéologie, qui viennent se retrouver sur cette question d'origine des langues. Et mon objectif, ça va essayer de montrer un peu la diversité des approches, et voir que pour parler du langage, parfois, on s'en va très loin, pour ensuite revenir sur la question centrale qui va m'intéresser. Donc c'est assez large, j'espère que je serai clair. Si vous avez des questions après, évidemment, n'hésitez pas, dans tous les domaines, je n'aurai pas forcément réponse à tout, mais je ferai de mon mieux. Voilà. Alors, ce dont je vais vous parler, donc, c'est les origines du langage, en prenant un prisme particulier, qui est le lien entre la faculté de langage et notre capacité en tant qu'être humain à utiliser des symboles. Donc voilà un petit peu comment je vais prendre mon sujet. Tout d'abord, je ferai une petite partie plus introductive en parlant du langage et de ce qu'on appelle un symbole et de la pensée symbolique. Je verrai un petit peu comment on retrouve cette capacité chez nous, être humain. Une fois que j'aurai fait ça, j'essaierai d'abord de comparer notre capacité symbolique à ce qu'on voit dans le règne animal. Et je vous parlerai en particulier de grands singes, de ce que sont capables de faire les grands singes en termes d'acquisition d'un système de communication qui ressemble au langage. Après, je vous ferai un saut, je passerai dans une autre discipline, je vous parlerai d'informatique, alors pas vraiment de complexité, mais de choses qu'ont essayé de faire les chercheurs en informatique pour comprendre un peu mieux les origines du langage. Et puis enfin, troisième point qui sera encore un peu différent, et j'essaierai de lier un peu tout ça, ce sera de regarder dans la préhistoire qu'est-ce qu'on a comme trace sur les origines du langage, et puis aussi sur les premières manifestations symboliques donc chez nos ancêtres. Voilà, donc première partie. Donc ça fait quelques bonnes dizaines d'années, quelques centaines d'années, quelques milliers d'années même, qu'on se pose la question du propre de l'homme. Et si on regarde, ne serait-ce que le XXe siècle, mais également auparavant, on a proposé tout un tas de caractéristiques pour essayer de définir notre spécificité par rapport au reste du règne animal. Donc si vous avez sûrement déjà entendu parler un peu de ce genre de questionnement, c'est quelque chose qui est récurrent dans la pensée humaine. Vous avez pu trouver à certains moments des chercheurs, des philosophes qui disaient que la conscience de soi c'était quelque chose qui était unique à l'être humain. Vous avez des personnes qui ont mis en avant le fait qu'on était un animal capable de manipuler des outils. Le premier être humain, c'est le premier être vivant à bénéficier du qualificatif d'homo, comme homo sapiens. C'est Homo habilis, l'homme habile, parce que c'est le premier être vivant, on disait en tout cas, à utiliser des outils. On a parlé de l'art, on a parlé de la culture, le fait que nous soyons un animal culturel, et puis on parle aussi du langage. Donc tous ces éléments-là, ils ont été mis en avant au cours des dernières décennies, par exemple. Et pour tous ces éléments-là, hormis peut-être le langage, on a pu trouver des comportements chez les animaux qui permettaient de dire ce ne sont pas vraiment des choses qui peuvent vraiment nous définir. Pour la conscience de soi, si vous avez entendu parler de la tâche de Galou, qui consiste à, pour faire simple, à avoir un miroir en face d'un animal, vous avez un certain nombre d'animaux, pardon, des grands singes aux éléphants, en passant par certains oiseaux, qui se reconnaissent dans le miroir, donc avec une certaine manifestation d'une conscience de soi. Pour les outils, on sait que les chimpanzés, par exemple, utilisent différents outils, par exemple des branches pour attraper des termites dans une termitière. Vous avez aujourd'hui aussi de très belles études sur certains types de corvidés qui peuvent utiliser des petites branches d'arbres et en particulier les torques pour fabriquer des crochets pour pouvoir avoir accès à de la nourriture. En ce qui concerne la culture, alors il y a tout un tas de façons de définir la culture, mais si on parle de la culture en termes de transmission culturelle par rapport à la transmission génétique, le fait d'avoir d'une génération à une autre la transmission de certaines connaissances ou de certains caractères par une transmission qui n'est pas génétique, vous avez ça chez différents animaux, chez les oiseaux par exemple, le chant, il y a une partie génétique pour le chant des oiseaux et aussi une part culturelle Une façon de vérifier ça, ça a été montré dans les années 50, c'est que si vous prenez des oisillons et que vous les mettez en isolation, qui sont privés de l'input du reste du groupe social, ils vont développer un champ, mais qui ne sera pas le même champ que les autres oisillons qui sont élevés au sein du groupe. Pour l'art, c'est une question un petit peu plus compliquée. Je veux juste vous montrer cette illustration-là parce qu'elle me plaît beaucoup. C'est un dessin, on va dire, fait par un gorille qui s'appelle Michael, qui est un gorille qui a été entraîné à utiliser la langue des signes pour communiquer. Et voilà ce qu'il dessine quand on lui demande de dessiner le chien Michael sans que le chien soit présent à côté de lui. Donc c'est un dessin de mémoire. Il y a d'autres toiles qui sont plus soumises à discussion. Je trouve que celle-là est intéressante, c'est difficile de vraiment tirer des conclusions définitives, mais vous avez des éléphants qui peuvent peindre aussi très bien, donc après apprentissage. Là, c'est quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Pour le langage, un petit peu plus délicat à définir, donc je vais m'arrêter en particulier sur ce point-là. Alors, pour faire un tout petit peu de linguistique, mais sans vraiment rentrer dans des choses très techniques, le père de la linguistique moderne, Ferdinand de Saussure, au début du XXe siècle, a émis un certain nombre de points qui sont vraiment centraux pour les langues du monde. Il a en particulier introduit une notion qu'on appelle le triangle sémiotique, et ce triangle sémiotique sert à caractériser, en gros, ce qu'est un mot dans les langues du monde. Et Saussure a mis en avant le fait qu'il y avait une relation entre trois éléments, un référent, qui est un objet ou un événement du monde, un signifié, qui est la représentation, le concept que l'on va pouvoir avoir de ce référent qui existe dans le monde, et puis un signifiant, qui va être par exemple la suite de sons qui fait le mot arbre en français. Et donc, vous avez une relation entre trois éléments. Le signifiant permet de communiquer à propos du signifiant. Et ce signifié, il entretient des relations avec d'autres signifiés, d'autres concepts qu'on peut avoir en mémoire. Alors, Saussure a appelé ça le signe linguistique. Et il a dit que le signe linguistique avait deux faces, le signifiant et le signifié. Et le point qui m'intéresse en particulier, c'est que Saussure a dit qu'il y avait ce qu'on appelle l'arbitraire du signe, c'est-à-dire que le lien entre le signifiant et le signifié est arbitraire. Et comment on peut démontrer facilement qu'il est arbitraire? C'est que pour le même concept, dans des langues différentes, vous allez avoir des assemblages de sons qui vont être différents. Arbre en français, tree en anglais. Et dans d'autres langues, d'autres signifiants. Si on voit un petit peu ça, si on complète juste un peu ça, on peut dire qu'il y a une relation, qui est une relation de convention pour l'assemblage entre le signifié et le signifié. Donc ça, c'est quelque chose qui remonte déjà au début du XXe siècle et qui avait déjà été présenté un petit peu. Juste un tout petit peu plus de ce qu'on pourrait appeler la sémiotique, c'est ce dont Deacon a parlé en reprenant les travaux de Pierce. Il a établi une distinction entre les icônes, les index et les symboles. Et ce qu'a rappelé Deacon, c'est qu'un objet peut représenter un autre objet, être un signe pour quelque chose d'autre, sur la base de similarité, par exemple la base de similarité de forme, par exemple, et là c'est ce qu'on va appeler une icône. Quelque chose peut représenter autre chose sur la base de corrélation, par exemple la fumée est une icône, est un index du feu, parce qu'il y a une relation de cause à effet entre le fait d'avoir un feu et le fait d'avoir de la fumée. Donc ça peut être une causalité, une contiguïté spatiale ou une contiguïté temporelle. Le dernier niveau, le plus sophistiqué, on va dire, le plus difficile sur le plan cognitif, c'est le fait qu'un objet peut en représenter un autre sur la base de relations qu'il entretient avec d'autres représentations, un petit peu comme ce que vous aviez ici. Le signifié pour l'arbre va pouvoir avoir des relations avec d'autres signifiés avec lesquels il a des relations sémantiques. Vous pouvez avoir des symboles qui entretiennent des relations les uns avec les autres et qui se définissent de cette façon-là. Si vous pensez aux mots du lexique, par exemple pour le français, vous avez tout un tas de relations qui peuvent être établies entre ces mots-là, et puis au sein de la phrase aussi, vous avez des relations entre les mots qui constituent la phrase et qui permet de reconstruire le sens global à partir des sens individuels de ces mots. En tant qu'être humain, ce sur quoi je vais m'arrêter, sur le fait qu'on est très très bon pour manipuler des symboles. C'est vrai pour le langage. Le langage est un système de communication qui est symbolique, les mots sont autant de symboles. Mais plus généralement, on vit dans un monde, en tant qu'être humain, qui est complètement peuplé, peut-être même saturé, de symboles. Donc il y a une phrase de Barthes, Barthes a dit cette phrase-là, c'est que chaque objet du monde peut passer d'une existence fermée, muette, à un état oral, ouvert à l'appropriation de la société. Alors ma façon en tout cas de lire cette phrase-là, c'est qu'on peut prendre, en tant qu'être humain, n'importe quel élément, et lui ajouter quelque chose, et le transformer en symbole. Et il va signifier quelque chose d'autre que ce qu'il est lui-même, par le fait que par convention, on décide qu'il a cette caractéristique-là. Quelque chose qui est intéressant et qui rappelle la succession icône, index et symbole de Picom et de Peirce, c'est si vous pensez à la monnaie, l'argent qu'on utilise sans arrêt. Si on regarde historiquement le développement de la monnaie, on est passé d'une monnaie qu'on peut appeler une monnaie de commodité, où vous utilisez par exemple des coquillages, par leur rareté, par leur forme, par leur beauté, vous en serviez comme médium pour échanger différentes choses, ou avec des pièces en or, en argent, des matériaux rares, des matériaux précieux. On est passé de cette monnaie de commodité au cours du temps à une monnaie de représentation qui a souvent existé en parallèle de la monnaie de commodité. Enfin, c'est les premiers billets de banque qu'on trouve en Chine à la fin du premier millénaire. Et puis, on est dans une relation plutôt indexicale parce qu'un billet comme ça, ça a de la valeur parce qu'il y a une convention dans la société qui dit que ce billet-là correspond à une certaine quantité d'or ou d'argent et que si on va à la banque avec ce billet-là, alors, on va récupérer la quantité d'or, à quoi correspond ce billet. Et aujourd'hui, on est passé à quelque chose qui est peut-être un niveau qu'on pourrait appeler plus symbolique, ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, c'est que si vous allez à la banque avec un billet de 100 euros, on ne va pas vous donner l'or qui correspond à ça. La valeur d'un billet de 100 euros, c'est une valeur qui est conventionnelle, et c'est une valeur qui repose sur une convention qui est établie au sein de la société, et entre des monnaies différentes, entre ce que les gens attribuent comme valeur à cet argent-là, sans qu'il n'y ait plus de référence avec un stock d'or, ça a disparu au cours du XXe siècle. Voilà un exemple particulier, mais si vous réfléchissez, pensez à une cravate. Qu'est-ce que c'est une cravate? Une cravate, c'est un symbole, parce qu'il existe une convention parmi nous dans la salle et plus généralement ailleurs, mais pas pour toutes les cultures, que quand on met une cravate pour avoir un certain statut social dans une certaine situation. C'est un bout de tissu, il n'y a rien dans le bout de tissu lui-même qui traduit ce statut social particulier, mais on est tous d'accord pour dire que quand on met une cravate, il y a quelque chose qui a à voir avec ça. Il y a quelque chose du niveau symbolique. Donc cette capacité, pourquoi notre monde il est saturé de symboles comme ça, pourquoi on vit dans un monde éminemment symbolique en tant qu'être humain, c'est qu'on dispose d'une capacité, une capacité de notre esprit, une capacité cognitive, pour manipuler et créer des symboles sans produire en produisant très peu d'efforts. C'est quelque chose qui est complètement naturel pour tous les êtres humains. Et cette capacité-là, on la possède et c'est ce qui fait que notre univers est peuplé de symboles. Une bonne question, c'est de se demander comment cette capacité, elle apparaît au cours du temps, chez l'enfant. Alors on peut prendre le problème de différentes façons, mais si on veut rester près du langage, quelque chose qu'on peut mettre en avant, c'est ce qui se passe chez les enfants, généralement autour de 18 mois. Qu'on va observer chez les enfants, si on regarde la façon dont se développe leur lexique, dont se développe le nombre de mots qu'ils connaissent et qu'ils utilisent, pour la plupart des enfants, enfin pour tous les enfants, mais ça peut varier un petit peu, le nombre de mois, c'est jamais quelque chose de fixe pour tout le monde, c'est que vers 18 mois, vous avez une accélération subite du nombre de mots que va manipuler l'enfant. Auparavant, au cours des mois, le nombre de mots que manipulait l'enfant augmentait plutôt lentement. Et puis vous avez une cassure, il y a quelque chose qui se produit, et puis le nombre de mots qui est maîtrisé par l'enfant s'envole. Vous avez l'impression que l'enfant apprend chaque jour tout un tas de nouveaux mots, alors qu'avant sa compréhension, son apprentissage qui est beaucoup plus lent. C'est pas forcément facile de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau cognitif dans l'esprit de l'enfant, mais peut-être une façon de voir le problème, c'est de se dire qu'à cette époque-là, l'enfant comprend le statut spécial du mot et le fait qu'il peut être un symbole pour représenter autre chose. Il y a quelque chose qui se transforme dans sa compréhension du mot et dans ses capacités d'apprentissage du lexique et plus généralement de sa langue. Donc comprendre ce qui se passe exactement en termes de représentation cognitive, ce qui se passe dans le cerveau, pas forcément évident, on peut l'observer en tout cas à l'extérieur en comptant le nombre de mots, mais voilà le genre de port d'entrée sur le développement de la capacité symbolique. Il n'y a pas que celle-là, mais celle-là elle est intéressante. Ça, c'est chez l'homme, c'est la capacité symbolique chez l'homme. Si on veut comprendre comment elle est apparue, et si on veut comprendre plus généralement comment est apparu le langage, une des premières choses qu'on peut faire, c'est de se dire, bon, très bien, on voit chasser l'homme chez l'homme, mais si on voit ça chez d'autres animaux, c'est pas forcément quelque chose d'exceptionnel. Est-ce qu'on est vraiment à part dans cette capacité-là, ou pas? Donc c'est la chose qu'on peut regarder maintenant. Et en fait, si on prend notre système de communication, le langage, donc à chaque fois que je parle de langage, pour moi, c'est le système de communication de nous, êtres humains, comme vous savez. Si on regarde le langage en tant que système de communication, d'un point de vue un petit peu général, en fait, il y a tout un tas de caractéristiques de notre système de communication qui ne sont pas du tout propres à l'homme. Ça, ce travail d'analyse, il a été mené entre autres par un linguiste américain dans les années 60, qui s'appelait Charles Hockett. Et Hockett, il a établi un certain nombre de traits, de caractéristiques des systèmes de communication, suivant les versions de sa théorie 12, 16, en disant que le langage est le seul système de communication qui a tous ces traits-là en même temps. Ça, c'était l'approche de Hockett. Ce qu'on peut dire pour rester plus proche de ce qui m'intéresse, c'est que si on regarde notre système de communication, il a tout un tas de caractéristiques qu'on va retrouver chez d'autres animaux. Alors, je ne vais pas vous citer les 16 parce que c'est un petit peu fastidieux, mais bon, voici quelques-unes. Le fait qu'on utilise le canal vocal-auditif pour communiquer. Tous les animaux n'utilisent pas le canal vocal-auditif pour communiquer. Prenez les fourmis, d'autres animaux. Par contre, prenez les chiens, prenez les oiseaux, prenez tout un tas d'animaux que vous connaissez bien, ils utilisent le canal vocal-auditif. L'interchangeabilité, ça correspond au fait que les signaux dans notre espèce qui peuvent être émis par un mâle peuvent être émis par une femelle, et la compréhension ne s'arrête pas au genre. C'est vrai pour différentes espèces animales, c'est pas vrai pour toutes les espèces animales, mais c'est quelque chose qu'on va retrouver ailleurs que chez eux. Le caractère discret, c'est le fait qu'on utilise des éléments de base qu'on va pouvoir combiner, des éléments discrets qu'on va pouvoir combiner dans notre système de communication. C'est quelque chose aussi qu'on va retrouver chez différents animaux. Vous pouvez décomposer les signaux qu'ils émettent pour communiquer. L'arbitrarité, c'est l'arbitrarité du signe dont je vous ai déjà parlé, et je vais revenir là-dessus dans 30 secondes. Et puis la transmission culturelle, le fait que les langues, si vous avez un papa esquimau et une maman chinoise, et que vous grandissez en France, vous n'allez pas parler, vous n'allez pas avoir votre langue française qui va être teintée par un accent esquimaux ou chinois ou je sais quoi. Vous avez dans vos gènes une capacité à apprendre les langues qui se trouvent autour de vous quand vous êtes enfant. Et le fait que vous appreniez une langue ou une autre, ça c'est quelque chose qui est complètement au niveau culturel. Je vous ai déjà parlé des oiseaux. Chez les oiseaux, il y a une base génétique pour les chants, mais il y a aussi une base de transmission culturelle. Donc c'est pas unique. Là où ça se complique un petit peu et où on a du mal à trouver le pendant chez les animaux, c'est ce qu'on va appeler par exemple la double articulation, qui est un des traits aussi fondamentaux des langues du monde. La double articulation, c'est le fait que vous assemblez des éléments qui sont dépourvus de sens en éléments qui sont pourvus de sens. Donc c'est les sons que vous allez assembler pour fabriquer ce qu'on appelle des morphèmes, donc des unités dotées de sens. Me, es, on. Des unités qui sont dépourvues de sens, vous fabriquez un morphème, le mot maison, qui est pourvu de sens. Ça, c'est la première articulation. La deuxième articulation, c'est que vous êtes capable d'assembler, de mettre ensemble des éléments qui ont du sens pour former des ensembles plus importants, qui ont un sens, qui est une forme de composition, des sens des morphèmes individuels. Ça, c'est quelque chose qui est plus difficile à retrouver dans la nature. Et l'autre point, c'est la productivité ou la créativité. Ça a été mis en avant en particulier par des linguistes comme Noam Chomsky, comme étant quelque chose de fondamental pour nos systèmes de communication. Le langage, ça veut dire que vous êtes capable de créer des phrases qui ont du sens et que personne n'a jamais entendu avant. C'est un système ouvert avec un ensemble limité de briques de base. Vous pouvez composer un ensemble infini d'énoncés. Si je me rapporte un petit peu à ces notions d'arbitrarité, à ces notions de signes, de symboles, qu'est-ce que je peux voir dans le règne animal? Alors, je n'ai pas le temps de parler de tout, mais je peux au moins vous parler de ces exemples-là qui sont bien connus. À gauche, vous avez un singe africain qu'on appelle le singe verdé, et puis une autre espèce qu'on appelle les singes de Campbell. Et ces singes-là, ils sont intéressants, et ils ont été étudiés en particulier pour leur système de communication. Les singes verdés, ils ont trois cris différents qui servent à alerter leurs congénères. Alors, est-ce que c'est vraiment à alerter leurs congénères? C'est une question qui demande un peu plus de développement, mais je ne rentrerai pas dans les détails tout de suite. Mais ils ont trois cris différents qui vont pousser suivant le type de prédateur qui vient s'approcher du groupe. Si c'est un prédateur comme un serpent, si c'est un prédateur terrestre, ou si c'est un prédateur aérien. Si vous avez un des singes vervés qui voit un des prédateurs arriver, il va se mettre à crier en utilisant le cri qui correspond au type de prédateur. Et ces cris-là, ils sont arbitraires dans le sens où, dans la forme du cri, vous n'avez pas de relation particulière avec le type de prédateur qui arrive. Donc il y a une forme d'arbitrarité du signe pour ces animaux-là. Si vous regardez les singes de Campbell, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont aussi des cris d'alarme, mais que ces cris-là, ils présentent une structure particulière. Alors on ne peut pas dire que ce sont des morphèmes comme on va avoir par exemple dans le mot impersonnel. Vous avez un morphème 1, vous avez quelque chose comme personne, et vous avez elle, et vous composez. On ne peut pas dire que c'est vraiment la même chose pour ces animaux-là, mais néanmoins, quand vous regardez les cris qu'ils ont, donc j'ai reproduit ce tableau-là, vous avez un cri qui va être poussé quand un ou plusieurs singes vont arriver à léopard. Vous avez un cri qui va correspondre à un prédateur aérien, une espèce d'aigle, et puis vous avez un dernier cri qui va pouvoir, par exemple, être produit quand il y a un arbre qui tombe. Et ce qui est intéressant, c'est que vous retrouvez ces cris-là, mais avec une deuxième unité acoustique qui leur est accolée pour signifier d'autres choses. Donc vous avez un système de communication qui est à nouveau, encore une fois, qui est arbitraire, mais vous avez une forme de composition des signaux qui sont utilisés. Parce que vous avez quelque chose où, qui peut être ajouté aux trois éléments de base. Et puis, donc voilà, par exemple, ce cri-là va pouvoir être produit. Il y a des animaux volants, des aigles, ou d'autres, des cris, quand l'animal entend des cris d'une autre espèce de singe. Vous avez de l'arbitrarité, vous avez même une forme de composition, même encore une fois, on ne peut pas rapprocher ça exactement de ce qu'on va trouver dans les langues du monde de façon habituelle, mais vous avez une forme d'arbitraire aussi. Néanmoins, une grande différence avec les êtres humains, c'est que nous, notre arbitraire du signe, il n'est pas inscrit dans nos gènes. Chez ces animaux-là, les cris, ils sont innés, et cette convention qui est établie, qui dit que par exemple ce son-là, ça correspond à l'arrivée d'un léopard, c'est quelque chose qui est dans les gènes des animaux. Alors que pour nous, pas du tout dans les gènes, encore une fois, ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, et puis on est capable d'apprendre, on va dire, à la volée, une nouvelle convention. Si je vous dis, à partir de maintenant, crac en français, ça correspondra à un léopard. Si je vous dis ça, et vous notez ça sur un papier, on peut, si on se revoit au cours des semaines à venir, utiliser cette convention-là sans problème. Ça nous prendra un petit peu de temps à mémoriser, ce sera un peu bizarre au début, mais on pourra se mettre à utiliser ça. Juste à l'instant, vous imaginez, pensez au langage des Schtroumpfs, pour ceux qui aiment bien la bande dessinée, vous arrivez à comprendre ça, c'est une forme de convention, c'est pas si dur que ça à acquérir. On peut acquérir des conventions comme ça au fur et à mesure, ces animaux-là ne peuvent pas. Donc ça fait une différence importante entre les deux. Pour les champs d'oiseaux, c'est un petit peu plus délicat à traiter, mais vous avez aussi une part d'arbitrarité. Bon, c'est un peu plus délicat d'entrer là-dedans par rapport à ces animaux-là. Voilà ce que vous allez trouver, par exemple, chez les singes, qui ne sont pas les grands singes qui sont les plus proches de nous, mais quelque chose, un exemple du règne animal. Néanmoins, si on pense en termes de symbole, au sens voilà, où on est capable de créer des conventions de type une maison, l'assemblage de sons, mais, est-ce, donc, ça va correspondre à tel objet du monde, et on est capable d'apprendre ça facilement. Si on regarde les animaux dans l'état naturel, sans interférence humaine, c'est pas quelque chose qu'on va rencontrer dans la nature. Ça, c'est un premier point. Mais ce qu'ont fait certains chercheurs, c'est de se dire, il y a l'état naturel, mais il y a aussi ce qu'on peut essayer, nous, en tant qu'êtres humains, de faire avec ces animaux-là, et ce qu'on peut essayer de leur apprendre. Et de voir si on est capable de leur apprendre des choses qui ne se manifestent pas à l'état naturel. Et ça, c'est tout un tas d'expérimentations qui ont eu lieu depuis très longtemps. C'est une idée qui est présente. Alors, vous avez pris un exemple parmi tant d'autres, mais Samuel Pepys, donc il y a des gars qui vivaient au XVIIe siècle, et en ayant entendu qu'il y avait quelque chose comme un babouin qui avait été rapporté en France depuis l'Afrique, avait essayé de réfléchir à ce qu'on pourrait faire avec cet animal-là. Et en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il pensait que ce singe-là pourrait comprendre l'anglais et qu'on pourrait lui apprendre à parler ou à faire des signes pour communiquer avec nous. Donc c'est une idée qui est déjà très ancienne. C'est une expérience qui a été tentée à plusieurs reprises au cours du XXe siècle, dès le début du XXe siècle. Alors je ne vous ai pas mis l'exemple le plus récent, mais par exemple, dans les années 50, tournant des années 50, vous avez un couple, les époux Hayes, qui ont essayé d'apprendre à parler à un chimpanzé qui s'appelait Vicky. Pendant longtemps, on a essayé d'apprendre à parler aux chimpanzés. Typiquement, qu'est-ce que faisaient ces familles-là? Elles prenaient un petit chimpanzé et elles l'élevaient en même temps que leur enfant, dans le même environnement. Et regardez ce qui se passait. Vous allez sur YouTube, vous allez trouver, vous cherchez Bois. C'est une femelle chimpanzée dans les années 30 qui a été élevée en même temps que le fils de la famille qui s'appelait Donald. Et vous avez le petit chimpanzé qui se balade avec une couche culotte et le petit, avec le petit enfant à côté. Et puis on essaie de leur parler de la même façon. On regarde si les singes ne veulent pas parler ou pas. Et ça, malheureusement, d'une certaine façon, enfin malheureusement, c'est peut-être pas forcément le meilleur mot, mais ça n'a jamais donné de très bons résultats. On n'a peut-être pas compris tout de suite pourquoi, mais aujourd'hui on sait bien pourquoi. C'est que pour les singes, c'est pas possible de prononcer le type de son que nous on prononce en tant qu'être humain. Simplement parce que la configuration de leur tractus vocal, entre autres, ça ne leur permet pas de produire les sons que nous on peut prononcer facilement. Donc ça, ça a fait réfléchir les chercheurs évidemment, et dans les années 70, on a commencé un nouveau type d'expérience où on a dit on va essayer de communiquer avec ces animaux-là, de leur apprendre à communiquer, mais cette fois sans leur demander, vouloir essayer de leur apprendre à parler vocalement, mais en leur apprenant quelque chose qu'ils vont être plus capables de manipuler, leurs mains, on a essayé de leur apprendre une langue des signes. Étude aux États-Unis, on a essayé de leur apprendre la langue des signes américaine. Et vous avez plusieurs projets qui ont démarré à cette époque-là. Un qui est très connu, c'est celui qui a été mené par les époux Garnett et un chimpanzé qui s'appelle Washu. Un autre, c'est celui qu'a mené Francine Patterson avec Coco, qui est un gorille, que vous avez ici en photo, qui joue avec un petit chat qu'il aimait beaucoup, qui est voilà. Encore. Michael, celui dont je vous ai montré la toile, la peinture du chien, c'était un gorille qui était avec Coco. Coco est toujours vivant maintenant, vous allez sur internet, vous allez pouvoir lire sur lui jusqu'à plus soif. Et ces prochaines ont été tentées avec les chimpanzés, non, elles ont été tentées avec toutes les espèces de grands singes, à savoir les gorilles, les orang-outans et les bonobos. Et pour les bonobos, vous avez les époux Savage et Bob qui ont travaillé beaucoup avec les bonobos. Là, vous avez une photo d'une femelle bonobo qui s'appelle Pamba Nisha. Et puis, vous avez un animal en particulier qui est sûrement le plus connu de ce type d'expérience-là, je vous en parle après, qui s'appelle Kanzi. À ces animaux-là, on a essayé d'apprendre des relations entre des symboles arbitraires et des objets du monde. Typiquement, imaginez un petit triangle bleu en plastique et une pomme. Et on a essayé, avec des répétitions, soit on a essayé d'apprendre une forme avec les doigts, la forme pour dire une pomme en langue des signes américaine, et faire apprendre à l'animal la correspondance entre cette forme-là et l'objet réel du monde, une pomme. Et ce qu'on a fait en plus de la langue des signes, un petit peu après, c'est essayer de faire apprendre des formes visuelles, des petits lexigrammes, de faire apprendre des correspondances entre ces lexigrammes-là, des petites formes en plastique, des petites formes sur un écran ou sur une feuille de papier, essayer d'apprendre des correspondances entre ces formes-là et des objets du monde, ou des actions. D'accord ? Il y a tout un tas de détails dans lesquels on pourrait rentrer pour expliquer un peu des expériences. Est-ce qu'on aide par exemple le singe ? Est-ce qu'on laisse le singe complètement libre ? Utiliser ses mains, on lui montre et le singe essaie de reproduire, ou est-ce qu'on modèle la position de l'autre animal pour l'aider à apprendre plus vite? On va essayer différentes choses. Est-ce qu'on est dans un environnement plutôt contrôlé, ou est-ce qu'on est dans un environnement où le singe il est plutôt, on va dire, acculturé, c'est-à-dire qu'en gros, il grandit comme un petit enfant, on essaie de lui donner une grande richesse de stimulus, on lui parle en anglais, on lui parle avec la langue des signes, avec des lexigrammes. On n'essaie pas de tout contrôler en détail, d'être le plus précis possible, on essaie de leur donner un environnement très riche pour voir s'il est capable d'intégrer cet environnement et d'apprendre mieux grâce à la richesse des interactions qu'on va tisser. Donc vous avez différents paradigmes qui peuvent être essayés. Et le résultat de cette étude, alors j'ai bien tracé la ligne parce que c'est deux points, c'est deux choses différentes. Le résultat de ces études, et ça s'est développé depuis, depuis, 40 ans maintenant, c'est que c'est relativement facile, on va dire facile entre guillemets parce que ça prend quand même du temps, mais d'apprendre des signes arbitraires, et dans ce cas-là des symboles, parce que la relation entre l'objet et le signe, ça repose sur une pure convention. Les grands singes sont capables d'apprendre ça, et en grand nombre. Un animal comme Coco ou Achou, ils connaissent des dizaines, voire des centaines de relations entre par exemple les positions des doigts et des objets du monde, et ils sont capables de communiquer en produisant les symboles qui correspondent à ce dont ils veulent parler et qui existent dans leur environnement, ou qu'ils ont vu avant, même si c'est pas présent au moment même, etc. C'est vrai pour les grands singes, mais c'est vrai aussi pour d'autres animaux, comme les dauphins, comme les chiens, comme les oiseaux, vous avez différentes expériences qui ont été menées avec le temps. Les perroquets sont des oiseaux qui réagissent très bien à ce genre d'expérience-là, par exemple, même si on ne peut pas leur apprendre de la même façon qu'on apprend aux grands singes, une méthode un petit peu différente. Là, vous avez un exemple de lexigramme, c'est des petites pièces en plastique à cette époque-là, parce que l'ordinateur n'était pas encore vraiment développé, des petites pièces en plastique que Sarah, la chimpanzé, a appris pour référer à des choses autour d'elle. Une pomme, une table, une banane, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est si vous repensez à la double articulation, parler en langue des signes, vous assemblez des positions de doigts individuelles qui n'ont pas de sens si on les prend individuellement, mais vous les assemblez pour faire des signes qui sont signifiants. Et si vous combinez par exemple le signe pour moi et le signe pour une pomme, là vous passez à l'assemblage de signes de choses qui sont signifiantes, à des compositions de choses qui ont du sens. Donc cette double articulation pour la langue des signes ou pour l'assemblage de petits lexigrammes, les singes sont capables d'apprendre un système de communication qui repose sur la double articulation. Dans les années 70, quand ces expériences-là ont commencé, ça a eu un grand succès, il y avait beaucoup d'articles dessus. Et puis, à la fin des années 70, il y a un chercheur qui s'appelle Teres, qui a produit des travaux sur ses expériences avec un chimpanzé qui s'appelle Nimchinsky. Vous voyez la relation avec un célèbre linguiste existant encore aujourd'hui. Même méthode d'apprentissage de la langue des signes. Et sa conclusion à lui, ça a été un peu à l'inverse de l'excitation générale sur le fait que ces animaux-là étaient capables d'apprendre tout un tas de choses. Ça a été de dire, en analysant finement les productions de ce chimpanzé-là, qu'en fait la production elle était plutôt pauvre. Donc la plupart des fois où le singe communiquait, il produisait un symbole, voire deux symboles, mais pas des séries de 10 ou 15 symboles. Et que quand il y avait des productions plus longues, par exemple de 3, 4, 5 symboles, souvent c'était les mêmes productions qui revenaient, et il y avait des répétitions. C'était moi, répéter deux fois le signe au sein de l'enfant de signe qui était trop. Et pour T-Rex, la conclusion, ça a été de dire que la productivité, cette capacité qu'on a de pouvoir, à partir d'un ensemble limité d'éléments, créer un ensemble infini de productions, même sans aller jusqu'à l'infini, quelque chose d'un peu théorique, un grand nombre de productions, ce n'était pas quelque chose qui était à la portée d'un chimpanzé. Alors avec le temps, les études ont continué. Quand vous avez un documentaire, alors je pense qu'il est sorti en France, je n'ai pas pu le voir, mais c'est vraiment intéressant à voir. Ce qui est intéressant, c'est aussi toute la sociologie de ces expériences-là. Si vous essayez de voir un petit peu la vie de Nimchinsky, c'est quelque chose qui pose des questions éthiques sur ce qu'on fait avec des animaux comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand vous apprenez un animal comme ça à communiquer et qui se retrouve après dans un laboratoire pour tester les produits pharmaceutiques? Il y a vraiment un tas de choses intéressantes là-dessus qui posent des questions sur ce qu'on peut faire avec des animaux comme ça ou pas faire. Un chimpanzé, c'est pas du tout la même chose qu'une souris laboratoire, par exemple. Ça, c'est vraiment important. Alors, la star du lot, on va dire, c'est Candy. Alors, il y a un documentaire qui a été fait sur lui, enfin, même sûrement plusieurs, mais il y en a un qui s'appelait Candy, le singe aux mille mots. Donc, Candy, c'est un bonobo mâle. Alors, je pense qu'aujourd'hui, alors, je suis pas sûr de son âge, mais il y a bien une trentaine d'années, peut-être même un petit peu plus. Et il a appris à communiquer avec des lexigrammes, et il est vraiment très doué, c'est ce qu'on pourrait dire d'une façon générale. Son processus d'apprentissage a été vraiment bon, il maîtrise plusieurs centaines de symboles qu'il a appris, qu'il peut produire, et il est capable de faire des choses tout à fait intéressantes, en particulier il est capable de comprendre l'anglais. Mais si vous lui parlez en anglais, à moins que vous utilisiez des mots de philosophie analytique ou des termes informatiques, si vous lui parlez en anglais assez simple, il va très bien comprendre ce que vous lui racontez. Exemple, vous l'appelez au téléphone, il prend le téléphone, vous lui dites « Demain je vais venir et je vais t'apporter quelque chose à manger. » Le lendemain, vous arrivez, hop, il arrive et il vous demande ce que vous lui avez apporté à manger. Il comprend l'anglais, ce qui veut dire qu'il maîtrise la double articulation de la langue, et il maîtrise des différences syntaxiques fines entre les phrases. Donc, je peux vous montrer cette petite vidéo-là. Alors, vous avez... Alors là, c'est un peu son... J'espère que ça... ça va être un peu plus clair, mais je ne sais pas si ça va être assez visible. Est-ce que tu peux couper les oignons avec ton couteau ? Est-ce que tu peux mettre du sel sur ta balle, donc quelque chose qui est un petit peu incongru, hein. Candy va prendre une orange dans le frigo pour la mettre dans le bol. Ou si vous dites à Candy, Candy prend une orange dans le bol pour la mettre dans le frigo, il fait la différence entre les deux. Mais c'est pas juste qu'il repère frigo, orange et bol. Il est capable d'aller un peu plus loin dans sa compréhension de la langue. Ce qui est assez bluffant. Pour moi en tout cas. Généralement les gens sont assez d'accord avec moi. Vous avez vu peut-être dans la vidéo, c'est peut-être pas très clair, que la personne qui interagit avec Candy, elle a une espèce de masque. Il masque son visage et pour éviter l'effet du cheval Hans, qui serait de lui donner des indications, par exemple d'avoir une orientation involontaire des yeux vers le frigo, vers la balle, des choses comme ça. Donc c'est pour que ce soit le plus neutre possible. Ça marche un peu au niveau français. Et si vous lui demandez, est-ce que vous pouvez demander à Candy, c'est des choses qu'il n'a jamais entendues auparavant. Mettre le sel sur une balle, c'est quelque chose d'un peu incongru. C'est pas une phrase qu'il a forcément entendue avant, mais il est capable d'assembler des éléments pour comprendre le sens particulier de cet énoncé-là, même s'il ne lui a jamais été présenté auparavant. Et ça, c'est à voir avec la productivité. Donc tout ça, ça nous pose pas mal de questions, et ce n'est pas vraiment encore tout à fait résolu aujourd'hui. Un point, c'est que les animaux, en tout cas certains animaux, les grands singes, les dauphins, etc., sont capables d'apprendre des relations symboliques, en particulier pour communiquer. Ça, c'est clair aujourd'hui. Néanmoins, si vous allez dans le milieu naturel, pas quelque chose que vous allez voir. Donc il y a un écart entre le milieu naturel et ce qu'on est capable d'apprendre à ces animaux-là. Lui, il y a un écart entre la production et la perception. Quand il est capable de comprendre des énoncés anglais, même assez sophistiqués sur d'un point de vue syntaxique, d'un point de vue grammatical, mais en termes de production, c'est production ce qu'il va pouvoir produire en assemblant des petits lexigrammes, ce n'est pas au niveau de ce qu'il est capable de comprendre. Un peu penser à vocabulaire actif, vocabulaire passif d'une certaine façon, donc ça va plus loin que ça quand vous essayez d'apprendre une langue étrangère. Pourquoi il y a un écart entre les deux? C'est pas si clair que ça. Alors aujourd'hui, quand on travaille sur les grands singes, on essaie de comprendre un peu mieux ce qui se passe, on essaie d'aller un peu plus loin que la communication propre, et on essaie de rentrer dans comment ça fonctionne dans l'esprit de ces animaux-là, quelles sont les capacités cognitives qu'ils possèdent ou qu'ils ne possèdent pas, et qui font que eux et nous, c'est pas la même chose. Même s'ils sont capables de faire des choses impressionnantes, entre un lima adulte et un chimpanzé, ou même Candy, ou un gorille, ou un orang-outan, il y avait encore un écart important. Est-ce que c'est un écart quantitatif ou qualitatif? Ça, c'est une bonne question. C'est pas très clair. Mais en tout cas, quelque chose qui est intéressant quand on rentre plus généralement dans la cognition qui peut être rapprochée à la cognition langagière, à la cognition de communication, c'est ce qu'on fait nous en tant qu'être humain en termes de comprendre et de partager des intentions de communication et des intentions de coopération. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important et qui nous distingue des grands singes. Et en particulier, mais pas seulement lui, ils ont proposé quelque chose qui est ce qu'on peut appeler une cognition compétitive chez les grands singes. Quand vous êtes un chimpanzé dans un groupe de chimpanzés, vous êtes en compétition permanente avec les autres chimpanzés pour l'accès à la nourriture, pour la reproduction, etc., etc. Et ce cadre dans lequel vous évoluez, même si vous avez des relations sociales avec vos congénères, c'est un cadre de compétition et ça vient façonner la façon dont fonctionne votre esprit. Si on regarde l'être humain, on n'est pas dans le même cadre compétitif. Il y a de la compétition entre nous, mais ce n'est pas le même type de compétition. Et en gros, la sélection naturelle a fait que ces singes-là, dans leur environnement très compétitif, ont un certain type de cognition, alors que nous, dans notre cadre, dans notre environnement, ici, il s'est passé quelque chose dans la préhistoire, on est dans un cadre différent pour nos activités. Ce qui est intéressant, c'est si vous pensez aux chiens, par exemple, les chimpanzés ne comprennent pas très bien les gestes de pointage. Quand vous pointez quelque chose comme une balle, ce n'est pas quelque chose qu'ils comprennent facilement. En tout cas, les singes dans la nature, ça, si vous pointez sur quelque chose, ils ne vont pas forcément suivre la direction vers laquelle vous pointez. Faites ça avec un chien, ça marche très bien pour un chien. Pourquoi ? Parce qu'un chien, les chiens ont été sélectionnés, depuis quelques longs milliers d'années, pour être dans une relation avec nous, plutôt de coopération, qui fait que ce type de geste, de pointage, ça marche très bien, même si un chimpanzé, a priori, c'est plus proche de nous sur le plan cognitif qu'un chien. Mais différents environnements, différentes cognitions, et ce qui fait que peut-être si on est tellement fort pour manipuler des relations symboliques que les singes peuvent les apprendre, mais en tout cas ne vont pas les manifester naturellement, c'est parce que dans leur environnement de vie, dans le type de relation qu'ils entretiennent les uns avec les autres, ce n'est pas un besoin, en tout cas ce n'est pas quelque chose qui se manifeste de façon naturelle. Donc ça, ça peut être une explication. Donc d'un côté, les grands singes, d'autres animaux, de l'autre côté, l'être humain. Si on repense à l'histoire, si on remonte des millions d'années dans le passé, la question qui arrive c'est qu'est-ce qui s'est passé chez nos ancêtres pour arriver à ce qu'on est aujourd'hui et ce qui nous sépare maintenant d'autres animaux. Comment, dans le passé, cette manipulation symbole a pu se mettre en place. Voilà. Une façon d'aborder la question, en tout cas ça a été la façon de prendre le problème par les informaticiens. Les informaticiens ils se sont demandé comment des conventions, comme le fait d'utiliser les mêmes mots pour les mêmes choses au sein d'un groupe d'individus, comment ça peut se mettre en place. Alors, je vais vous présenter cette approche-là. Et dans ma dernière partie, je vous parlerai plutôt de la préhistoire, les données archéologiques, les données de la préhistoire. Mais je trouve que c'est intéressant de vous montrer une autre discipline informatique pour voir une façon qu'elle a eu de prendre le problème. Ce problème de les conventions, les symboles pour la communication. C'est un problème de la poule et de l'œuf, ce problème-là. Comment est-ce qu'on établit une convention? Si je veux établir avec vous que cette boîte-là peut prendre un sens différent, je ne sais pas ce que ça pourrait prendre comme sens particulier, si je veux établir une nouvelle convention avec vous, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais pouvoir simplement utiliser la langue que l'on comprend tous ici, parce qu'on parle tous la même langue ici, on va pouvoir utiliser la langue pour se mettre d'accord sur le fait que ça peut représenter autre chose. Pas de problème, je peux faire ça sans difficulté. Et si on réfléchit à la langue elle-même, ce dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est que la langue elle-même, c'est un ensemble de conventions négociées entre les locuteurs. Alors, nous, dans notre vie au quotidien, en tant qu'adultes, on ne négocie pas forcément sans arrêt le sens des mots, mais si vous pensez à un enfant, qu'est-ce qu'il fait? Un petit bébé, enfin, un enfant de 2, 3, 4 ans, il apprend les conventions de la langue, des langues qui sont parlées par ses parents. Il apprend la convention que le mot « maison », l'assemblage de son maison, qui après le mot écrit maison, ça renvoie à tel objet dans la réalité, une habitation. La question, et Rousseau s'était déjà posé cette question-là, c'est comment vous faites pour établir les conventions qui servent au langage si vous n'avez pas au préalable un autre système pour établir les conventions? Vous êtes un peu coincé, c'est comment vous démarrez la chose si vous voulez établir des conventions sans système au préalable qui permet d'établir des conventions. Le problème de la poule et de l'œuf. Et les informaticiens s'intéressent à la musique, mais aussi de prendre ce problème-là d'une certaine façon. Alors vous allez voir que ce n'est pas forcément tout à fait satisfaisant, mais c'est quand même intéressant. Ils ont essayé de faire ce qu'on appelle des modèles multi-agents pour comprendre, par exemple, l'émergence du lexique. Donc oubliez la syntaxe, oubliez l'assemblage des sons, l'assemblage entre la maison, le mot maison, et puis quelque chose, un concept, un objet dans le monde qui est une maison. Ce que vous faites quand vous êtes informaticien et que vous vous intéressez à ce genre de problème-là, la démarche, elle est un petit peu, dans un grand nombre d'études, elle a été celle-là. Vous prenez des individus virtuels, des locuteurs qui existent dans la machine. Ces locuteurs-là, vous les appelez A1, A2, A3, jusqu'à A10. Et puis, dans votre simulation, dans le modèle que vous avez réalisé avec dans votre ordinateur, que vous avez simulé, vous utilisez des objets, des concepts. Alors, ce n'est pas quelque chose qui a une réalité très profonde, c'est C1, C2, ça va être 5 variables dans la machine. Concept 1, concept 2, concept 3, concept 4. Et puis, ça va marcher comme ça. Une simulation, ça va être la répétition d'un grand nombre de tours de jeu, et dans un tour de jeu, vous allez piocher un individu au hasard, enfin deux individus au hasard, le premier ça va être celui qui parle, le second ça va être celui qui écoute. Donc le premier ça va être AI, le second ça va être AJ, et puis ils vont écouter, ils vont essayer de se mettre d'accord sur le mot qu'il faut utiliser pour parler du concept K. Donc par exemple, ça va être l'agent 1 avec l'agent 3, pour essayer de voir si, quel mot utiliser pour le concept 2. Et c'est au hasard. Et puis ces agents-là, quand vous programmez, quand vous développez votre modèle, vous essayez de les doter des choses, on va dire, des attributs minimaux qui sont nécessaires pour qu'ils puissent apprendre ces conventions. En gros, vous allez leur donner une mémoire. Une mémoire, qu'est-ce que ça va être? Une mémoire, ça va être une liste entre d'associations entre un concept et un autre. Une liste comme ça. Par exemple, l'association entre le concept C1 et puis un mot. Et un mot, comment vous fabriquez un mot? Vous prenez des briques de base, des lettres, et puis vous les assemblez ensemble. Par exemple, madame. Et vous allez avoir dans la mémoire que le concept C1 il peut correspondre au mot madame. Voilà. Les briques de base, ça va être des syllabes simples, ba, pi, prédéfinies à l'avance. Et vous pouvez les composer, en mettre trois ensemble pour former un mot. Donc les agents, ils ont cette liste d'associations dans leur mémoire, et puis pour chaque association, ils ont une valeur entre 0 et 1 pour dire que c'est une association qui marche bien ou pas. Si en gros les autres agents la comprennent bien ou pas. 1, ça marche super, 0, ça marche pas du tout, 0, 2, c'est pas terrible, etc. Ils ont la capacité de créer des nouveaux mots s'ils n'en connaissent pas déjà un pour tel ou tel concept. Et puis ils ont la capacité à apprendre d'un autre agent. Donc c'est les briques minimales pour essayer d'avoir des interactions, pour se mettre d'accord, pour associer les compositions de syllabes avec des concepts. Et dans l'informatique, rien ne peut être laissé au hasard, sinon ça ne marche pas, évidemment. Et donc vous avez un mécanisme, alors je ne vais pas vous détailler tout ça, mais vous avez une interaction qui est codifiée entre l'agent qui est choisi pour parler et l'agent qui est choisi pour écouter. Si l'agent qui est choisi pour parler ne connaît pas de mots pour le concept qui a été choisi, pour l'objet de la discussion, il peut en créer un. Et il y a quelques probabilités qui réalisent le fait qu'il apprend un mot, qu'il crée un mot ou pas. Et puis si ça ne marche pas, l'interaction s'arrête, on reprend deux nouveaux agents, un nouveau concept et on recommence. Si l'agent qui doit parler, il connaît déjà un mot pour parler du concept, ou s'il en connaît plusieurs, il va prendre celui qui a le meilleur score, celui qui est censé le mieux marcher avec les autres agents. Et puis dans ces cas-là, il va le transmettre à l'agent qui écoute. Et l'agent qui écoute, il reçoit le mot, il regarde dans sa mémoire, est-ce qu'il connaît déjà ce mot ou pas. S'il ne le connaît pas, ben l'interaction elle échoue, et il a une probabilité d'apprendre éventuellement le mot de la part de celui qui parle. S'il connaît déjà le mot, il regarde à quel concept il correspond. Si jamais c'est un concept différent, ben les deux agents ne sont pas d'accord. Le mot désigne un concept pour l'un et un autre concept pour l'autre. Il y a un problème. Et on va corriger la valeur qu'on attribue aux associations pour dire ces associations-là ne marchent pas bien, il faudrait en changer. Si les deux sont d'accord pour dire c'est le même mot pour le même concept, victoire, l'interaction c'est un succès, et on va augmenter le score des associations dans la mémoire des deux agents. Et vous faites ça pendant 10 000 fois, 100 000 fois, et vous regardez ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que si vous mesurez le succès de la communication, c'est-à-dire en gros, si quand vous avez une interaction, deux agents utilisent le même mot pour parler du même concept, au début, c'est très mauvais, parce qu'au début, les agents ils créent des mots, c'est pas du tout les mêmes, quand ils communiquent, ça marche pas. Et puis si vous attendez assez longtemps, le succès de votre communication augmente, jusqu'au moment où vous êtes à 1, c'est-à-dire que ça marche tout le temps. Tous les agents, quand ils communiquent 2 à 2, vous avez toujours succès, utilise le même mot pour le même concept. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez avoir une compétition à un moment donné entre différents mots pour un même concept, et au bout d'un moment, un mot va sortir du lot, va s'imposer et tous les autres mots vont disparaître. Ce qui est intéressant, c'est de bien comprendre comment ça marche. Le côté curieux, c'est que c'est un peu comme si vous pensez à une fourmilière avec des fourmis. Pendant longtemps, on a pensé que dans la fourmilière, il y avait une super fourmi qui dirigeait tout et qui était le grand planificateur et qui donnait les instructions à toutes les fourmis ouvrières. C'était la reine, plus grosse, au cerveau, et elle commandait à tout le monde. Il fallait commander ce qu'il fallait faire pour répondre. Sauf que ça, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, c'est que les fourmis, indépendamment, elles gèrent le truc. Il n'y a pas de planification, de centralisation du contrôle de la fourmilière, c'est quelque chose qui est distribué. Ici, c'est pareil. Il n'y a personne qui impose à aucun moment que tel mot doive correspondre à tel concept. À chaque fois, c'est négocié entre deux individus. Et ce qui est curieux, c'est que si vous faites ça un grand nombre de fois, tout le monde finit toujours par se mettre d'accord pour les mêmes mots, pour les mêmes concepts. Ce n'est pas un résultat trivial qu'on peut deviner a priori, et si on rentre vraiment dans le détail, c'est lié à des propriétés statistiques du fait de tirer certains agents plusieurs fois de suite au hasard, et c'est ça à voir avec les statistiques. C'est un petit peu comme si vous mettez une pièce de monnaie en l'air, pile ou face. Si vous pariez avec moi, je vais lancer 10 fois la pièce en l'air, qui veut parier avec moi 1000 euros ? Qu'elle va être tombée 8 fois sur pied. Pas grand monde va vouloir parier avec moi. Par contre, si je lance la pièce 1 million de fois en l'air, qui veut parier avec moi qu'il y aura au moins une séquence de 8 piles à la suite, si vous êtes un peu pour en stade, vous allez parier avec moi. Enfin, vous allez gagner si vous pensez que ça peut arriver. Ça a à voir avec ce genre de choses-là. Ce qui est intéressant, voilà, ça c'est un type d'approche en linguistique, en informatique linguistique, entre guillemets, qui a très bien marché. Et c'est un résultat qui est très robuste. Vous changez un petit peu le modèle, vous essayez des choses un petit peu différentes, vous allez toujours retrouver cette chose-là. Vous essayez, ce qu'on a essayé, c'est d'incarner ce modèle-là dans des dispositifs techniques, dans des robots. Le petit robot Animo, le petit chien de Sony, si vous avez déjà ce petit robot que vous avez acheté. On a essayé de le faire jouer avec ces petits robots-là en regardant des formes avec les caméras qui ont un scan de vision, et d'utiliser, de communiquer pour utiliser des mots, pour des formes autour d'eux. Ils vont toujours finir par se mettre d'accord aussi. Donc il y a quelque chose de vraiment intéressant dans la dynamique, comment au sein d'un groupe social, on peut se mettre d'accord pour utiliser les mêmes symboles pour référer aux mêmes choses. Est-ce que ça répond au problème de Rousseau, ça? Pas vraiment, parce que si vous avez suivi un peu ce que si vous avez compris le fondement de ce modèle-là, les agents, ils savent déjà communiquer d'une certaine façon, puisque le modèle d'interaction, quelque chose qui est déroulé à chaque fois et ils l'ont d'une certaine façon en tête. Et ce modèle-là, il est appliqué un grand nombre de fois, ça finit par marcher et c'est une transmission qui est purement culturelle et ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qui a pu se passer au niveau de la sélection naturelle, au niveau de l'histoire évolutive de notre espèce ou des espèces qui nous ont précédés, pour qu'on soit capable d'acquérir cette capacité symbolique. Dans cette simulation-là, elle est donnée au départ, mais elle n'émerge pas. Ce qui émerge, c'est les concepts, les associations entre les concepts et les mots. Et donc, ce n'est pas vraiment la même chose. Et accessoirement, si vous vous rappelez ce que je vous ai dit pour les cinq, ces agents-là, d'une certaine façon, ils ont envie de communiquer. Ça, c'est un peu la différence, d'une certaine façon, entre nous et les grands singes, à cause de cette hypothèse de cognition compétitive qu'ils ont eux et qu'on a pas. Néanmoins, ce qui est intéressant avec toutes ces expériences-là, et là, je vous ai montré une qui date d'il y a 15 ans, et il y en a eu des centaines derrière, c'est que ça nous permet de comprendre petit à petit la fabrique sociale des symboles. Comment les symboles peuvent être négociés, évoluer, se transformer au sein d'un groupe d'individus. Il y a la capacité cognitive qu'on a tous les uns les autres, et après il y a ce qu'on en fait quand on est tous ensemble. Prenez un exemple très intéressant, les enfants sourds du Nicaragua, dans les années 80, fin des années 70, si je ne dis pas de bêtises, vous avez la révolution sandiniste au Nicaragua, et les enfants sourds-muets qui auparavant n'avaient pas l'éducation pour les enfants sourds-muets n'était pas institutionnalisée. Ces enfants-là, ils vivaient dans leur famille, ils n'allaient pas à l'école parce qu'ils ne pouvaient pas parler. Ils étaient éduqués, pas trop éduqués, chacun dans leur coin. Après la révolution sandiniste, ces enfants-là, ils ont été mis à l'école ensemble. Et très rapidement, ce qui s'est passé, c'est que ces enfants-là ont créé une langue des signes particulière qu'ils ont négociée au cours de leurs interactions, un peu à la façon de ces modèles-là. Et il y a une nouvelle langue qui est apparue de façon très rapide. Donc, ça nous permet de comprendre un peu les choses. Alors pour finir, 5-10 minutes, non. C'est si on pense à la préhistoire, qu'est-ce qui s'est passé dans la préhistoire et qu'est-ce qu'on peut en dire de ce qui s'est passé dans la préhistoire?
C'est
que finalement, si ces simulations informatiques-là, elles sont un peu limitées, parce qu'elles ne collent pas forcément à la réalité du passé, qu'est-ce qui se passe quand on regarde la réalité du passé, en particulier quand on est archéologue ou paléo-anthropologue? Le problème, c'est que, sauf si vous arrivez à trouver ça, dans ces cas-là, vous allez devenir très célèbre, il n'y a pas d'enregistrement de nos ancêtres qui a 50 000 ou 100 000 ans. Donc on dit généralement la formule consacrée, c'est le langage ne fossilise pas. Donc s'il ne fossilise pas, comment on fait pour l'étudier? Comment on étudie les origines du langage quand on n'a pas accès direct aux mots que prononçaient nos ancêtres ou aux phrases que prononçaient nos ancêtres plus ou moins loin? Alors, moi j'ai tendance à séparer deux types d'indices pour parler des origines du langage, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est les indices physiologiques d'un côté et les indices comportementaux. Les indices physiologiques, qu'est-ce que c'est? Ça va être des choses que vous allez trouver quand vous trouvez des fossiles de nos prédécesseurs qui vont vous permettre de penser que ces individus-là, à telle époque, ou cette espèce-là, Homo sapiens, l'homme de Néandertal, etc., Homo habilis, avait une capacité pour produire la parole orale telle qu'on utilise aujourd'hui tous ces épisodes sur la Terre, sauf ce handicap. Un exemple très rapide, sans rentrer dans les hypothèses, vous avez des chercheurs qui ont essayé de comparer, de dire qu'en regardant dans les fossiles le diamètre du canal hypoglosse, le canal hypoglosse c'est un trou que vous avez à la base du crâne qui permet au nerf crânien numéro 12 de partir de votre cerveau et de connecter votre langue, et c'est le nerf qui sert entre autres à la motricité de la langue. Et il y a des chercheurs qui ont mis l'hypothèse qu'on pouvait étudier le développement de la capacité de production de la parole en mesurant le diamètre de ce trou-là dans différents fossiles à différentes époques chez différents individus. Voilà un indice un peu physiologique du langage. Alors c'est un peu plus compliqué, je ne rentre pas dans les détails, mais vous avez un peu l'idée générale. L'autre élément qui va plus m'intéresser, c'est les indices comportementaux du langage. Là, l'idée c'est plutôt quand vous regardez dans le passé, vous avez des traces de comportement de nos ancêtres, et vous essayez de relier ces comportements-là à leur capacité cognitive d'une façon générale, et à leur capacité pour communiquer les uns avec les autres. Quand vous trouvez, il y a 40 ou 60 000 ans, des sépultures d'Homo sapiens avec par exemple des objets, des offrandes qui sont déposées à côté d'eux, qu'est-ce que vous pouvez déduire à partir de ça quant à ce que ces individus étaient capables d'échanger en termes de conception de vie après la mort? Est-ce que j'appelle un indice comportemental? Un indice comportemental, mais c'est pareil, je ne vais pas trop entrer dans les détails, sur lequel j'ai travaillé en particulier, c'est les premières traversées maritimes. Il y a 60 000 ans, 40 000 ans, on trouve aujourd'hui des fossiles en Australie qui ont à peu près 50 000, 60 000 ans. Ces fossiles, ils sont en Australie. Aujourd'hui, si vous voulez gagner l'Afrique, l'endroit d'origine de notre espèce Homo sapiens, si vous gagnez l'Australie aujourd'hui, vous ne pouvez pas y aller à pied. D'accord ? Il faut pas prendre des bateaux pour traverser, on va dire, de l'Indonésie jusqu'à l'Australie. Si vous remontez dans le passé, période glaciaire, plus ou moins de glace, le niveau des mers a varié au cours du temps. Si vous regardez le niveau des mers il y a environ 60 000 ans, il était en gros 80 mètres sous le niveau des mers actuelles. Et si vous faites des calculs informatiques avec des bases de données topographiques, des choses comme ça, vous avez une idée de à quoi ressemblait l'Australie et la Nouvelle-Guinée à l'époque. Ce que vous savez, c'est qu'à l'époque, par exemple, la Nouvelle-Guinée et l'Australie, ça faisait qu'un bloc, c'était connecté. Vous avez une idée de quelle tête avait les îles par là, on parle de Sunda, on parle de Saoul, et vous pouvez regarder, si vous avez les individus qui ont été retrouvés ici, vous pouvez regarder les différents chemins qu'ils ont pu prendre pour gagner l'Australie. Et vous arrivez à la conclusion que pour gagner l'Australie, il fallait faire des traversées en bateau dont une au moins de 90 km. Ce n'est pas ridicule. Alors il y a d'autres navigations plus anciennes, mais je ne rentre pas dans les détails. Mais quand vous êtes capable, si vous réfléchissez à ce que ça veut dire ça, ça veut dire que vous soyez capable de faire un bateau, une embarcation qui est assez solide. Donc généralement une embarcation c'est composé de plusieurs éléments. Il faut des liens, il faut du bois, du bambou, probablement. Il faut être capable de construire quelque chose comme ça qui soit assez solide et assez durable pour pouvoir aller sur la haute mer pendant un bon moment, de quoi traverser 90 km. Ça, c'est un type d'embarcation que vous pouvez trouver chez les aborigènes australiens au début du XXe siècle. C'est une embarcation qui est bien pour rester pas trop loin ou pour aller dans la mangrove. Ce n'est pas une embarcation qui va pouvoir traverser la mer 90 km ou plus de temps. Et puis, si vous voulez faire quelque chose comme ça, vraisemblablement, il faut aussi planifier le voyage. Il faut être capable de concevoir. Il faut emporter des vivres, peut-être de l'eau potable, et pour plusieurs personnes. Si vous arrivez tout seul en Australie, ben vous n'allez pas coloniser l'Australie tout seul. Vous allez mourir, ça va être la fin. C'est tragique, mais... Donc vraisemblablement, bon après il faut discuter un peu tout ça dans les détails, j'ai pas le temps là, mais il y a quelque chose comme un projet de partir à plusieurs pour coloniser quelque chose que vous voyez à l'horizon, une destination dont vous n'avez pas vraiment idée de ce qu'elle va être exactement. Pourquoi vous partez là-bas? Il y a besoin d'une planification, de concevoir qu'est-ce qui va, pourquoi on va là-bas, pourquoi on construit une embarcation, pourquoi on prend des villes, etc. Est-ce que des choses comme ça, ça peut être le fait d'un individu isolé, quelqu'un qui dit tiens, je vais construire un bateau et je vais partir? Fort peu probable que ce soit quelque chose comme ça. Beaucoup plus probable que ce soit quelque chose de planifié, de construit au sein d'un groupe, négocié au sein d'un groupe. Donc en gros, c'est, est-ce que vous imaginez que c'est quelque chose comme ça, parti au hasard, avec le courant et le vent, et qui arrive tout seul en Australie? Ou est-ce que vous pensez à quelque chose qui implique plus de capacité cognitive et de communication? Mon hypothèse, c'était pas seulement la mienne, mais de dire qu'ils font un système de communication sophistiqué qui ressemble au nôtre pour apprendre et enseigner la construction de bateaux qui soient de plus en plus performants. Vous n'apprenez pas en un jour à construire un porte-avions, un peu en résumé. Par moi, vous soyez vraiment dans votre réseau. Préparer le projet d'atteindre une destination qui est lointaine, que vous pouvez ou non voir à l'horizon, et avoir les motivations profondes derrière quelque chose comme ça. Pourquoi est-ce que tout à coup, si vous êtes dans un endroit, vous allez construire une embarcation et partir en mer, vous avez grande chance de finir manger ou disparaître, ou jamais arriver, plutôt que de rester ici? Est-ce que ça a quelque chose à voir de pourquoi il y a des gens qui essaient, qui essaient de monter jusqu'au sommet d'Everest pour en descendre 5 minutes après, alors qu'ils ont une chance sur 3 ou 4 d'y mourir? Est-ce que c'est un peu le même genre de choses à cette époque-là ou pas? Voilà la question. Si on pense aux traces de symbolisme, donc là, je vous ai parlé d'un comportement. Un autre comportement, c'est les premières traces de symbolisme. Donc c'est ce qui m'intéresse en particulier pour finir mon exposé là. Voilà ce qu'on peut trouver il y a 70 000 ans. C'est une pièce qui est bien connue. C'est une pierre sur laquelle vous avez des stries, des rayures, des gravures. Donc vous essayez de comprendre, est-ce que ces gravures-là, ce sont des symboles pour dire quelque chose, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose de naturel ou de fonctionnel? Et quand vous êtes un archéologue qui travaille là-dessus, vous essayez d'éliminer, en gros, de trouver la bonne hypothèse. Qu'est-ce qu'étaient ces traces-là? La première chose que vous pouvez vous dire, en analyser, c'est que ces stries-là, elles n'améliorent pas les performances de l'outil. C'est pas parce que vous faites des stries que cet outil-là, il va être meilleur, par exemple, pour détacher de la viande des os, si vous avez tué une proie. Par contre, est-ce que des rayures comme ça, des stries comme ça, ça peut être juste le résultat d'un processus de dégradation normale de la pierre, frottée à d'autres matériaux? Elle s'est abîmée au fur et à mesure, c'est pas quelque chose qui a été tracé par des individus, c'est quelque chose qui a résultat d'un processus naturel. Comment vous faites pour tester ça? Vous faites ce qu'on appelle de l'archéologie applicative. Vous prenez à peu près la même pierre, vous en prenez une autre, et pendant des heures, vous frottez les deux pierres, vous obtenez des striures, vous prenez un microscope électronique, vous comparez votre pierre ici et la pierre que vous avez travaillée, et vous démontrez, vous voyez au microscope si c'est les mêmes dégradations ou pas. Dans ce cas-là, ce n'est pas les mêmes dégradations. C'est comme ça que vous pouvez savoir aussi, est-ce que nos ancêtres se brossaient les dents avec des nerfs d'animaux ou des petits morceaux de bois? Vous prenez une dent, vous la frottez avec un nerf ou avec du bois pendant une dizaine d'heures et vous regardez au microscope. On fait ce genre de choses-là. Ça ne marche pas. Le plus probable, c'est que c'est une gravure intentionnelle et que si elle est comme ça, c'est qu'elle a une signification sociale. Cette gravure-là, le fait de faire des stries signifie quelque chose. Il n'y a pas à voir avec le fait que ce soit inscrit dans la pierre en particulier, mais parce que les gens se sont mis d'accord pour dire que ça signifiait autre chose. Et ça, ça peut avoir avec le langage et être sous-tendu par le langage. Le dernier exemple, c'est celui-là. Le dernier exemple que je peux vous donner, c'est une variation du suivant. Vous trouvez des coquillages comme ça, dans une grotte, à 100 km de la mer, et ces coquillages, ils ont des perforations. Pourquoi il y a des coquillages avec des perforations dans cet endroit-là, sur le site archéologique? Est-ce que c'est parce que c'était des coquillages avec des trous et c'était mis sur un collier, en fait c'était un collier, ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Vous pouvez vous demander, les êtres humains qui ont ramené ces coquillages-là, c'était pour les manger parce que c'était une bonne source de nourriture. Les personnes qui ont étudié ces coquillages-là, elles ont mesuré combien il y avait de calories si vous mangez un bon nombre de ces coquillages-là, et ils ont démontré que ce n'est pas beaucoup, que ça ne servait à rien d'être emporté sur 70 kg pour les manger. C'était pas un bon rendement. Est-ce que ces perforations-là, elles sont dues au hasard? Est-ce que c'est des perforations qui n'ont pas été creusées par un être humain? Comment vous testez ça? Vous allez sur la plage la plus proche, vous récupérez 4000 coquillages, vous analysez tous les trous au microscope et vous regardez si c'est les mêmes. Et vous concluez que non, c'est pas les mêmes. Et donc, conclusion, encore une fois, c'est probablement c'était un objet de parure avec une fonction sociale et une fonction symbolique. que je veux vous dire avec tout ça, c'est que parfois pour parler du langage et des symboles, vous êtes obligé de mesurer les calories d'un coquillage. C'est ça qui est vraiment intéressant d'un point de vue épistémologique, épistémique, c'est que vous êtes obligé de faire des inférences très compliquées, parce que encore une fois, le langage ne fossilise pas, donc comme vous n'avez pas le matériau brut sous la main, vous êtes obligé d'utiliser autre chose. Et donc vous êtes obligé de vous creuser la tête pour établir des ponts entre ce que vous avez sous la main et ce que vous voulez dire. Vous partez des restes matériels et vous remontez au comportement ou au substrat biologique si vous étudiez par exemple le canal hypoglosse et vous avez le diamètre du trou, vous voulez inférer le diamètre d'une nerf et les nerfs ça disparaît contrairement aux autres. Et puis vous avez les comportements et vous voulez remonter à ce qui se passait dans la tête des individus. Et vous pouvez vous planter à tous les niveaux. Vous pouvez vous planter parce que le registre archéologique il est partiel et que demain vous pouvez faire une découverte qui va venir falsifier votre hypothèse. C'est plutôt bien en termes de l'approche scientifique. Vous pouvez vous tromper dans l'interprétation des données. Vous pouvez surinterpréter des données ou sous-interpréter des données. Et d'une façon générale, notre problème, c'est qu'en tant qu'être humain moderne, avec notre cognition qui marche comme ça, pas autrement, on a du mal à penser ce que pouvait être la cognition d'être différent de nous, à la fois proche et différent. Et ça, c'est un vrai problème qui est un problème plus anthropologique, d'une certaine façon, c'est de penser une cognition qui est à la fois proche et différente de la nôtre. Et c'est un peu le même problème quand on pense aux animaux aujourd'hui, quand on réfléchit aux droits des animaux, c'est le même genre de questions qui se posent. Voilà le genre de choses qui peut être intéressant de creuser encore aujourd'hui, c'est moins d'être là. C'est comment, avec la sélection naturelle, au cours des derniers millions d'années, notre penchant coopératif, qui sous-tend entre autres notre capacité à manipuler, à échanger, à construire des symboles, a pu se développer. Comment cette évolution, elle s'articule avec la production des symboles, et en particulier quand vous pensez à l'enfant qui se développe et qui à un moment quelque part attrape cette compréhension de ce que c'est un symbole et qui va pouvoir lui à son tour se mettre en créer et à les apprendre beaucoup plus facilement. Comment ça s'articule quelque chose qui a à voir avec la théorie de l'esprit, le partage d'intention, la coopération, etc. Et puis les symboles en eux-mêmes et la capacité symbolique. Il y a quelque chose à voir entre les deux. Comment est-ce qu'on détricote ce lien-là qui n'est pas facile d'accès. Le dernier point, c'est comment, pour reprendre ce point de vue de la vérité, d'essayer de comprendre ce qui se passait dans la tête de nos ancêtres, comment on peut faire ça. Alors ça, c'est quelque chose qui m'intéresse en particulier. Quand on regarde les publications scientifiques des archéologues, on parle toujours de symboles, mais la sémantique, c'est un peu plus riche que symbole et versus pas symbole. Il y a tout un tas de nuances que vous pouvez faire, et vous pouvez essayer d'avoir une lecture un peu plus sémiotique de ces choses-là, et de rentrer un peu dans le détail. En particulier, vous pouvez vous dire, quand vous trouvez un coquillage, il a des caractéristiques primaires, des caractéristiques physiques, que vous pouvez mettre à profit pour en faire un objet de pardon, quelque chose comme ça. Mais en tant qu'être humain, si vous vous rappelez Barthes, pour Lambert, vous pouvez prendre un coquillage comme ça et lui donner une fonction secondaire. Vous pouvez élaborer sur ce qu'il représente pour vous à partir de ses propriétés primaires ou même à partir de complètement autre chose. Comment est-ce qu'on peut arriver à comprendre ça vu qu'on n'a pas accès à la tête de nos ancêtres, à ce qu'ils pouvaient échanger? Une façon de faire, c'est d'essayer de regarder des référents modernes et de voir ce qu'on connaît de ces référents-là et de remonter dans le passé. Alors, je n'ai pas le temps d'écrire ça, mais par exemple, juste ce qui m'intéresse, c'est vous réfléchissez à ce qui s'est passé quand la photographie s'est développée dans la deuxième partie du 19e siècle, et vous regardez l'impact qu'elle a eu sur la peinture. C'est documenté, il y a des philosophes qui ont écrit là-dessus, comme Walter Benjamin, par exemple, et qui essaient de comprendre la façon dont on a conceptualisé les propriétés particulières de la photographie par rapport aux propriétés de la peinture. Le fait que pour prendre une photo, vous appuyez sur un bouton. D'une certaine façon, c'est pas possible. Le fait que vous pouvez reproduire à l'infini une photo à très faible coût, ce qui est un des intérêts de la photographie à l'époque. Vous essayez de comprendre la façon dont on a réagi à ces éléments-là, et après vous pouvez essayer de voir si dans le passé, dans la préhistoire, vous pouvez appliquer ce type de conceptualisation à d'autres éléments. Par exemple, peinture corporelle versus scarification ou tatouage versus collier ou léparou. Il y a des différences entre ces éléments-là. Quand vous analysez ces différences, est-ce que vous pouvez réussir à faire le lien avec des choses plus récentes? Mon point de vue, c'est de dire, bon, c'est pas facile, mais on peut essayer d'avancer dans des directions. Voilà. Je m'arrête là, j'espère que je vous ai donné un aperçu assez vaste. Et si vous voulez creuser, je peux vous donner du poids. Merci.